Aristote, Métaphysique, livre 11, chapitre 1 à 7. Chapitre 1. La philosophie est une science des principes. Cela résulte évidemment de la discussion que nous avons établie en commençant relativement aux opinions des autres philosophes sur les principes. Mais on pourrait se poser cette difficulté. Faut-il regarder la philosophie comme une seule science ou comme plusieurs? Si l'on dit que c'est une seule science n'embrasse jamais que les contraires, et les principes ne sont pas contraires. Si ce n'est pas une seule science, quelles sont les diverses sciences qu'il faut admettre comme des philosophies? Ensuite, appartient-il à une seule science ou à plusieurs d'étudier les principes de la démonstration? Si c'est là le privilège d'une science unique, pourquoi plutôt à celle-là qu'à toute autre? Si de plusieurs, quelles sont donc ces sciences? De plus, s'occupe-t-elle, oui ou non, de toutes les essences? Si elle ne s'occupe pas de toutes, il est difficile de déterminer celle dont elle doit s'occuper. Mais si une seule science les embrasse toutes, on ne voit pas comment une science unique peut avoir pour objet plusieurs essences. Ne porte-t-elle que sur les essences ou porte-t-elle aussi sur les accidents? Si telle est la science démonstrative des accidents, elle n'est pas celle des essences. Si ce sont là les objets de deux sciences différentes, quelles sont-elles l'une et l'autre, et laquelle est la philosophie? La science démonstrative est celle des accidents. La science des principes est la science des essences. Ce ne sera pas non plus sur les causes dont nous avons parlé dans la physique que devra porter la science que nous cherchons, car elle ne s'occupe pas du but. Le but, c'est le bien, et le bien ne se trouve que dans l'action, dans les êtres qui sont en mouvement. Il est le principe même du mouvement. Tel est le caractère du but. Or, le moteur premier ne se trouve pas dans les êtres immobiles. En un mot, on peut se demander si la science qui nous occupe présentement est ou non la science des substances sensibles, ou bien si elle porte sur d'autres essences. Si elle porte sur d'autres, ce sera ou sur les idées ou sur les êtres mathématiques. Quant aux idées, il est évident qu'elles n'existent pas. Et admettons même l'existence des idées, resterait encore cette difficulté. Pourquoi n'en est-il pas pour tous les êtres dont il y a des idées comme pour les êtres mathématiques? Voici ce que j'entends par là. On fait des êtres mathématiques des intermédiaires entre les idées et les objets sensibles, une troisième espèce d'être en dehors des idées et des êtres qui tombent sous nos sens. Mais il n'y a pas un troisième homme, un cheval en dehors du cheval en soi et des chevaux particuliers. Si au contraire il n'en est pas ainsi, de quels êtres faut-il que s'occupent les mathématiciens? Évidemment, ce n'est pas des êtres que nous connaissons par les sens, car aucun d'eux n'a les caractères de ce qu'étudient les sciences mathématiques. Et d'ailleurs, la science que nous cherchons ne s'occupe pas des êtres mathématiques, car aucun d'eux ne se conçoit sans une matière. Elle ne porte pas non plus sur les substances sensibles. Elles sont périssables. On pourrait se demander encore à quelle science il appartient d'étudier la matière des êtres mathématiques. Ce n'est pas à la physique, car toutes les spéculations du physicien ont pour objet des êtres qui ont en eux-mêmes le principe du mouvement et du repos. Ce n'est pas davantage à la science qui démontre les propriétés des êtres mathématiques, car c'est sur la matière même de ces êtres qu'elle prend pour accordée qu'elle établit ses recherches. Reste à dire que c'est notre science, que c'est la philosophie qui s'occupe de cette étude. Une autre question, c'est de savoir si la science que nous cherchons doit être regardée comme relative aux principes que quelques philosophes appellent éléments. Mais tout le monde admet que les éléments sont contenus dans les composés. Or, la science que nous cherchons paraîtrait plutôt être la science du général, car toute notion, toute science porte sur le général et non sur les derniers individus. Elle sera donc la science des premiers genres. Ces genres, ce seront l'unité et l'être, car ce sont là ceux qu'on peut surtout regarder comme embrassant tous les êtres, comme ayant par excellence le caractère de principe, parce qu'ils sont premiers par leur nature. Supprimer l'être et l'unité, tout le reste disparaît à l'instant, car tout est unité et être. D'un autre côté, les admettons comme des genres, les différences participeront nécessairement alors de l'unité et de l'être. Or, aucune différence ne participe du genre. D'après cela, ils ne doivent pas, se semble, être regardés comme genre ni comme principe. Ensuite, ce qui est plus simple est plutôt principe que ce qui l'est moins. Or, les dernières espèces comprises dans le genre sont plus simples que les genres, car elles sont indivisibles, tandis que le genre peut se diviser en une multitude d'espèces différentes. Par conséquent, les espèces seront, à ce qu'il me semble, plutôt principes que les genres. D'un autre côté, en tant que la suppression du genre entraîne celle des espèces, les genres ont plutôt le caractère de principe, car cela est principe qui emporte tout avec soi. Telles sont les difficultés qu'on peut se poser et bien d'autres de même nature. Chapitre 2. En outre, faut-il admettre ou non d'autres êtres en dehors des individus? Est-ce sur les individus que porte la science que nous cherchons? Mais il y a une infinité d'individus. Ce qui est en dehors des individus, ce sont les genres ou les espèces. Or, ni les uns ni les autres ne sont l'objet de notre science. Nous avons dit pourquoi cela était impossible. En un mot, faut-il admettre, oui ou non, qu'il existe une essence séparée et en dehors des substances sensibles, ou bien que ces dernières sont les seuls êtres et qu'elles sont l'objet de la philosophie? Évidemment, nous cherchons quelque essence autre que les êtres sensibles, et notre but, c'est de voir s'il y a quelque chose qui existe séparé en soi et qui ne se trouve dans aucun des êtres sensibles. Ensuite, s'il y a quelque autre essence indépendamment des substances sensibles, en dehors de quelles substances sensibles faut-il admettre qu'elle existe? Car pourquoi dirait-on que cette essence indépendante existe plutôt en dehors des hommes ou des chevaux que des autres animaux, ou, en général, des objets inanimés? Et d'ailleurs, il va contre la raison, à ce qu'il me semble, d'imaginer des substances éternelles semblables aux substances sensibles et périssables. Si donc le principe que nous cherchons maintenant n'est pas séparé des corps, quel principe pourrait-on admettre de préférence à la matière? Mais la matière n'est pas en acte, elle n'est qu'en puissance. D'après cela, la forme et l'essence paraîtraient avoir plus de droits au titre de principe que la matière. Mais la forme matérielle est périssable, de sorte qu'il n'y a absolument aucune substance éternelle séparée et en soi. Or, cela est absurde, car il y en a évidemment quelqu'une. Presque tous les esprits les plus distingués se sont occupés de cette recherche, convaincus de l'existence d'un principe, d'une substance de ce genre. Comment, en effet, l'ordre existerait-il s'il n'y avait pas quelque chose d'éternel, de séparé, d'immuable? Ajoutons que s'il existe un principe, une substance de la nature de celle que nous cherchons, si elle est la substance unique de toute chose, substance des êtres éternels et des êtres périssables tout à la fois, il s'élève une autre difficulté. Comment, le principe étant le même, les êtres sont-ils les uns éternels, les autres non éternels? C'est là une chose absurde. S'il y a deux substances qui soient principes, l'une des êtres périssables, l'autre des êtres éternels, et si en même temps la substance des êtres périssables est éternelle, la difficulté n'est pas moindre. Car pourquoi, si le principe est éternel, ce qui provient du principe n'est-il pas éternel? S'il est périssable, il a lui-même pour principe un autre principe, celui-ci un autre, et l'on ira de la sorte jusqu'à l'infini. Que si l'on admet pour principe l'unité et l'être, qui semblent être par excellence les principes immobiles, et si en même temps ni l'un ni l'autre de ces deux principes n'est un être déterminé, une essence, comment seront-ils séparés et en soi? Or, tels sont les caractères que nous cherchons dans les principes éternels et premiers. Si d'un autre côté, l'unité et l'être sont l'être déterminé et l'essence, dès lors, tous les êtres seront des essences, car l'être se dit également de tous les êtres et l'unité d'un certain nombre. Or, prétendre que tous les êtres sont des essences, c'est être dans le faux. De plus, comment peuvent être dans le vrai ceux qui disent que le premier principe c'est l'unité et qu'à ce titre l'unité est essence, qui engendre le premier nombre au moyen de l'unité et de la matière, et qui disent que ce nombre est la substance des êtres sensibles? Comment, en effet, comprendre qu'il y ait unité dans la dyade et dans chacun des autres nombres composés? Ils ne disent rien à ce sujet, et il ne leur serait pas facile de donner une explication satisfaisante. Si l'on regarde comme principe les lignes, ou ce qui dépend des lignes, et j'entends par là les plans premiers, ce ne seront pas là des substances séparées, ce ne seront que des sections, des divisions, les unes des plans, les autres des corps, les points des lignes. Elles ne seront guère que les limites de ces corps. Or, de pareils êtres existent toujours dans d'autres êtres. Aucun d'eux n'est séparé. Ensuite, comment concevoir une substance à l'unité et au point? Toute substance est sujette à production, et le point ne naît pas. Le point n'est qu'une division. Une autre difficulté, c'est que toute science porte sur l'universel, sur ce qui embrasse la multiplicité des choses, tandis que la substance n'est point quelque chose de général, mais plutôt l'être déterminé et séparé. Si donc la science traite des principes, comment concevoir que le principe soit une substance? De plus, y a-t-il, oui ou non, quelque chose, indépendamment de l'ensemble? Par ensemble, j'entends la matière unie à la forme. S'il n'y a rien, tout est matériel. Tout est périssable. S'il y a quelque chose qui soit indépendant, ce sera la forme et la figure. mais dans quel cas la forme est indépendante, dans quel cas elle ne l'est point. C'est ce qu'il est difficile de déterminer. Toutefois, dans certains cas, la forme n'est évidemment point séparée, pour une maison par exemple. Enfin, les principes sont-ils identiques quant à l'espèce ou quant au nombre? S'ils sont identiques en nombre, tout sera identique. Chapitre 3. La science du philosophe est la science de l'être en tant qu'être dans toutes ses acceptions, et non pas sous un point de vue particulier. L'être n'a pas une signification unique, mais s'entend de plusieurs manières. Or, s'il n'y a analogie que de nom, et s'il n'y a pas au fond un genre commun, l'être n'est pas du domaine d'une seule science, n'y ayant pas, entre les diverses sortes d'êtres, unité de genre. Mais, s'il y a aussi rapport fondamental, alors l'étude de l'être appartiendra à une seule science. Ce que nous avons dit qui avait lieu pour le médical et pour le sain a lieu aussi, ce semble, pour l'être. Médical et sain se prennent l'un et l'autre sous plusieurs acceptions. On donne ces noms à tout ce qui peut se ramener de telle façon ou de telle autre, soit à la science médicale, soit à la santé. Mais toutes les significations de chacun de ces mots se rapportent à une même chose. On donne le nom de médical à la notion de la maladie et au scalpel parce que l'une vient de la science médicale et que l'autre est utile dans cette science. De même pour le sain. Tel objet reçoit le nom de sain parce qu'il est l'indice de la santé, tel autre parce qu'il la produit. Et de même pour les choses analogues. De même, enfin, pour tous les autres modes de l'être. Chacun de ces modes est appelé être, ou parce qu'il est une qualité, un état de l'être en tant qu'être, ou parce qu'il est une disposition, un mouvement, ou quelqu'un des autres attributs de ce genre. Toutes les acceptions de l'être peuvent se ramener à une seule acception commune. Toutes les contrariétés se peuvent ramener aux premières différences, aux contrariétés de l'être, soit qu'on regarde comme première différence de l'être la pluralité et l'unité, la similitude et la dissimilitude, ou bien quelques autres différences, questions que nous n'avons plus besoin d'examiner. Peu importe que l'on ramène les divers modes de l'être à l'être ou à l'unité. Supposez même que l'unité et l'être ne soient pas identiques mais différents, ils peuvent cependant se remplacer l'un l'autre. L'unité est, sous un point de vue, l'être et l'être, l'unité. Puisqu'une seule et même science embrasse tous les contraires, et que dans tous les contraires, il y a privation. On pourrait se poser cette difficulté. Comment, dans certains cas, y a-t-il privation, y ayant un intermédiaire entre les contraires, entre le juste et l'injuste, par exemple? Dans tous les cas, il faut dire qu'il n'y a pas pour l'intermédiaire privation complète de chacun des extrêmes. Cela n'a lieu que pour les extrêmes entre eux. Si par exemple, l'homme juste est celui qui se conforme aux lois en vertu d'une certaine disposition de sa nature, il n'y aura pas, pour l'homme non juste, privation complète de tout ce qui est compris dans la définition du juste. S'il manque par quelques points à l'obéissance due aux lois, il y aura pour lui privation sous ce rapport. Il en sera de même pour tout le reste. De même donc que le mathématicien opère sur de pures abstractions, car il examine les objets dépouillés de tout leur caractère sensible, tels que le poids, la légèreté, la dureté et son contraire, ainsi que la chaleur, le froid et tous les autres caractères sensibles opposés deux à deux, il ne leur laisse que la quantité et la continuité dans une seule, dans deux, dans trois directions. Et les modes de la quantité et du continu en tant que quantité et continu, et ne les étudie point sous d'autres rapports. Il examine tantôt leur position relative et ce qui suit de leur position, tantôt leur commensurabilité et leur incommensurabilité, tantôt leur proportion. Et cependant, nous ne faisons qu'une seule et même science de la géométrie, laquelle étudie les objets sous tous ses rapports, de même pour l'être. C'est la philosophie seule, et non pas une autre science, qui étudie les accidents de l'être en tant qu'être, et les contrariétés de l'être en tant qu'être. Car c'est en tant que susceptible de mouvement, plutôt qu'en tant qu'être, qu'on pourrait rapporter à la physique l'étude de l'être. La dialectique et la sophistique s'occupent des accidents des êtres, et non pas des êtres en tant qu'être, ni de l'être en soi et en tant qu'être. Reste donc à dire que c'est le philosophe qui traite des principes dont nous avons parlé en tant qu'ils sont des êtres. Et puisque les diverses significations de l'être se rapportent toutes à une signification commune et unique, et comme elles, les diverses contrariétés. Car toutes se ramènent aux premières contrariétés et aux premières différences de l'être. Une seule science peut dès lors embrasser toutes ces choses. Et ainsi se trouve résolue la difficulté que nous nous étions posée en commençant. Je veux parler de la question de savoir comment une seule et même science peut embrasser à la fois plusieurs êtres de genres différents. Chapitre 4. Le mathématicien se servant des axiomes généraux, mais seulement dans son point de vue particulier, la philosophie première devra aussi étudier les principes des axiomes. Cet axiome, que si de choses égales on retranche des quantités égales, les restes sont égaux, s'applique à toutes les quantités. La science mathématique accepte, il est vrai, ce principe, mais elle n'opère que sur quelques points particuliers de la matière qui en dépend, par exemple sur les lignes, les angles, les nombres ou tel autre mode de la quantité. Mais elle n'étudie pas ces êtres en tant qu'ils sont des êtres, mais seulement en tant que continus dans une seule direction, dans deux, dans trois. Au contraire, la philosophie ne s'occupe point des objets particuliers ou de leurs accidents. Elle étudie chacun de ces objets sous le rapport de l'être en tant qu'être. Il en est pour la physique comme pour les mathématiques. La physique étudie les accidents et les principes des êtres en tant qu'ils sont en mouvement, et non pas en tant qu'être. Mais nous avons dit que la science première est celle qui étudie les objets sous le rapport de l'être en tant qu'être, et non point sous quelque autre rapport. C'est pourquoi et la physique et les mathématiques ne doivent être regardées que comme des parties de la philosophie. Chapitre 5. Il y a un principe dans les êtres, relativement auquel on ne peut pas être dans le faux. C'est nécessairement le contraire. Je veux dire qu'on est toujours dans le vrai. Voici ce principe. Il n'est pas possible que la même chose soit et ne soit pas en même temps. Et de même, pour toutes les autres oppositions absolues. Il n'y a pas de démonstration réelle de ce principe, cependant, on peut réfuter celui qui le nie. En effet, il n'y a pas de principe plus certain que celui-là, duquel on puisse le déduire par le raisonnement. Et il faudrait qu'il en fût ainsi pour qu'il y eût réellement démonstration. Mais si on veut démontrer à celui qui prétend que les propositions opposées sont également vraies qu'il est dans le faux, il faudra prendre un objet qui soit identique à lui-même, comme ne pouvant pas être et n'être pas le même dans un seul et même moment, et qui, cependant, d'après le système, ne doit pas être identique. C'est la seule manière de réfuter celui qui prétend qu'il est possible que l'affirmation et la négation d'une même chose soient vraies en même temps. Et d'ailleurs, ceux qui veulent converser entre eux doivent se comprendre, car comment, sans cette condition, y aurait-il entre eux communication de pensée? Il faut donc que chacun des mots soit connu, qu'il exprime une chose, non pas plusieurs, mais une seule. Ou bien, s'il a plusieurs sens, il faut qu'on indique clairement quel objet on désigne présentement par le mot. Quant à celui qui dit que telle chose est et n'est pas, il nie ce qu'il affirme, et par conséquent, il affirme que le mot ne signifie pas ce qu'il signifie. Mais cela est impossible. Il est impossible, si l'expression « telle chose est » a un sens, que la négation de la même chose soit vraie. Si le mot désigne l'existence d'un objet, et que cette existence soit une réalité, c'en est une nécessairement. Or, ce qui est nécessairement ne peut pas en même temps ne pas être. Il est donc impossible que les affirmations opposées soient vraies en même temps du même être. Ensuite, si l'affirmation n'est pas plus vraie que la négation, appelez tel être homme ou non-homme. Ce ne sera pas plus dire la vérité dans un cas que dans l'autre. Mais alors, dire que l'homme n'est pas un cheval, ce sera être plus dans le vrai, ou n'y être pas moins que celui qui prétend que ce n'est pas un homme. On sera donc encore dans le vrai en disant que l'homme est un cheval, car les contraires sont également vrais. Il en résulte que l'homme est identique au cheval ou à tout autre animal. Il n'y a, disons-nous, aucune démonstration réelle de ces principes. On peut cependant démontrer leur vérité à celui qui les attaque par de tels arguments. En interrogeant Héraclite lui-même dans ce sens, on l'eut bientôt réduit à accorder qu'il est complètement impossible que les affirmations opposées soient vraies en même temps, relativement aux mêmes êtres. C'est, on le voit, pour ne pas s'être entendu avec lui-même qu'Héraclite embrassa cette opinion. Admettons, j'y consens, que son système soit vrai. Dès lors, son principe même ne sera pas vrai. Il ne sera pas vrai de dire que la même chose peut être et n'être pas en même temps. Car de même qu'on est dans le vrai en affirmant et en niant séparément chacune de ces deux choses, l'être et le non-être, de même, on est dans le vrai en affirmant comme une seule proposition l'affirmation et la négation réunies, et en niant cette proposition totale considérée comme une seule affirmation. Enfin, si l'on ne peut rien affirmer avec vérité, on sera dans le faux en disant qu'aucune affirmation n'est vraie. Si l'on peut affirmer quelque chose, alors tombe de lui-même le système de ceux qui repoussent les principes et qui par là suppriment absolument toute discussion. Chapitre 6. Ce que dit Protagoras ne diffère guère de ce qui précède. En effet, Protagoras prétendait que l'homme est la mesure de toute chose, ce qui veut dire simplement que toute chose est en réalité telle qu'elle paraît à chacun. S'il en est ainsi, il en résulte que la même chose est et n'est pas, est à la fois bonne ou mauvaise, et que toutes les autres affirmations opposées sont également vraies, puisque souvent la même chose paraît bonne à ceci, à cela mauvaise, et ce qui paraît à chacun est la mesure des choses. Pour résoudre cette difficulté, il suffit d'examiner quel a pu être le principe d'une pareille doctrine. Quelques-uns semblent y être arrivés pour avoir adopté le système des physiciens. Pour les autres, elle est née de ce que tous les hommes ne portent pas le même jugement sur les mêmes choses, et que telle saveur qui paraît douce aux uns paraît aux autres avoir la qualité opposée. Un point de doctrine commun à presque tous les physiciens, c'est que rien ne vient d'une naître et que tout vient de l'être. Le nom blanc, il est vrai, vient de ce qui est complètement blanc, de ce qui n'est nulle part non blanc. Mais lorsqu'il y a production du nom blanc, le nom blanc, selon eux, proviendrait de ce qui est non blanc. D'où il suit dans l'hypothèse que quelque chose viendrait du non-être, à moins que le même objet ne soit à la fois blanc et non blanc. Cette difficulté est aisée à résoudre. Nous avons dit dans la physique comment ce qui est produit vient du non-être et comment de l'être. D'un autre côté, ajoutez également foi aux opinions, aux imaginations de ceux qui sont en désaccord sur les mêmes objets. C'est pure sottise. Évidemment, il faut de toute nécessité que les uns ou les autres soient dans l'erreur. Cette vérité se montrera dans tous ces jours si l'on considère ce qui a lieu dans la connaissance sensible. Jamais, en effet, la même chose ne paraît douce aux uns, amère aux autres, à moins que pour les uns, le sens, l'organe qui juge des saveurs en question, ne soit vicié et altéré. Mais s'il en est ainsi, il faut admettre que les uns sont et que les autres ne sont pas la mesure des choses. Ce que je dis également pour le bien et le mal, le beau et le laid et les autres objets de ce genre. Professer l'opinion dont il s'agit, c'est croire que les choses sont telles qu'elles paraissent à ceux qui compriment la paupière inférieure avec le doigt et font ainsi qu'un objet unique leur paraît double. C'est croire qu'il y a deux objets parce qu'on en voit deux, et qu'ensuite il n'y en a plus qu'un, car ceux qui ne touchent pas leur œil n'en voient qu'un seul. Et d'ailleurs, il est absurde de porter un jugement sur la vérité d'après les objets sensibles que nous voyons changer sans cesse et ne jamais persister dans le même état. C'est dans les êtres qui restent toujours les mêmes et ne sont susceptibles d'aucun changement qu'il faut chercher à saisir la vérité. Tels sont par exemple les corps célestes. Ils ne paraissent pas tantôt avec tel caractère, tantôt autrement. Ils sont toujours les mêmes, ils ne subissent aucun changement. De plus, si le mouvement existe, si quelque chose se meut, tout mouvement étant le passage d'une chose à une autre, il faut dans le système que ce qui se meut soit encore dans ce dont il vient et n'y soit plus, qu'il soit en mouvement vers tel but et qu'il y soit déjà parvenu. S'il n'en est pas ainsi, la négation et l'affirmation d'une chose ne peuvent pas être vraies en même temps. Ensuite, si les objets sensibles sont dans un flux, dans un mouvement perpétuel sous le rapport de la quantité, si l'on admet du moins, quoique cela ne soit pas vrai, Pour quelle raison la qualité ne persisterait-elle pas? Car une des raisons qui ont fait admettre que les propositions contradictoires sont vraies en même temps, c'est qu'on suppose que la quantité ne reste pas la même dans les corps, parce que le même corps a maintenant quatre coudées, et plus tard n'a pas quatre coudées. La qualité, c'est ce qui distingue la forme substantielle, la nature déterminée. La quantité tient à l'indéterminé. Ce n'est pas tout. Pourquoi, quand leur médecin leur ordonne de prendre telle nourriture, prennent-ils cette nourriture? Car, quelle raison y a-t-il pour croire plutôt que c'est là du pain que de croire le contraire? Et alors, il sera indifférent de manger ou de ne pas manger. Et cependant, ils prennent la nourriture dans la conviction que le médecin a affirmé quelque chose de vrai et que c'est bien là le mets qu'il a ordonné. Il ne devrait pas le croire, pourtant, s'il n'est pas de nature qui reste invariable dans les êtres sensibles, si toutes, au contraire, sont dans un mouvement, dans un flux perpétuel. Et d'ailleurs, si nous-mêmes nous changeons continuellement, si nous ne restons pas un seul instant les mêmes, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que nous ne portions pas le même jugement sur les objets sensibles, à ce qu'ils nous paraissent différents quand nous sommes malades? Les objets sensibles, bien qu'ils ne paraissent pas au sens les mêmes qu'auparavant, n'ont pas pour cela subi un changement. Ils ne donnent pas les mêmes sensations, mais des sensations différentes aux malades, parce que ceux-ci ne sont pas dans le même état, dans la même disposition qu'au temps de la santé. La même chose arrive nécessairement dans le changement dont nous parlions tout à l'heure. Si nous ne changions pas, si nous restions toujours les mêmes, les objets persisteraient pour nous. Quant à ceux qui en sont venus par le raisonnement à se poser les difficultés précédentes, il n'est pas facile de les convaincre s'ils n'admettent pas quelques principes dont ils ne demanderont pas de raison. Car toute preuve, toute démonstration part d'un principe de ce genre. Ne rien admettre de tel, c'est supprimer toute discussion et par conséquent toute preuve. À l'égard de cela, il n'y a donc pas de preuve à donner. Mais ceux qui sont seulement dans le doute, à raison des difficultés dont nous venons de parler, il est facile de dissiper leurs incertitudes et d'écarter ce qui fait naître le doute dans leur esprit. Cela est évident d'après ce que nous avons dit tout à l'heure. Il résulte clairement de là que les affirmations opposées ne peuvent être vraies en même temps du même objet, que les contraires ne peuvent pas s'y rencontrer non plus simultanément, puisque toute contrariété contient une privation, ce dont on peut s'assurer en ramenant à leur principe les notions des contraires. De même aussi, aucun terme moyen ne peut s'affirmer qu'un seul et même être. Supposons que le sujet soit blanc. Si nous disons qu'il n'est ni blanc ni non-blanc, nous serons dans le faux, car il résulterait de là que le même objet serait blanc et ne le serait pas. L'un des deux termes compris à la fois dans l'expression pourra seul s'affirmer de l'objet. Ce sera pour le non-blanc la négation du blanc. On ne peut donc être dans le vrai en admettant le principe d'Héraclite ou celui d'Anaxagore. Sans cela, on pourrait affirmer les contraires du même être. Car, quand Anaxagore dit que tout est dans tout, il dit que le doux, l'amer, que tous les autres contraires comme ceux-là s'y rencontrent également, puisque tout est dans tout, non pas seulement en puissance, mais en acte et distinctement. Il n'est pas possible non plus que tout soit vrai et que tout soit faux. D'abord, à cause des nombreuses absurdités où entraîne cette hypothèse, comme nous l'avons dit. Et ensuite, parce que si tout est faux, on ne sera pas dans le vrai en affirmant que tout est faux. Enfin, parce que si tout est vrai, celui qui dira que tout est faux ne sera pas dans le faux. Chapitre 7. Chapitre 7. Toute science s'occupe de la recherche de certains principes et de certaines causes à l'occasion de chacun des objets dont elle embrasse la connaissance. Ainsi font la médecine, la gymnastique et les diverses autres sciences créatrices. Ainsi font les sciences mathématiques. Chacune d'elles se circonscrit en effet dans un genre déterminé et traite uniquement de ce genre. Elle le considère comme une réalité et un être, sans toutefois l'examiner en tant qu'être. La science qui traite de l'être en tant qu'être est différente de toutes ces sciences et en dehors d'elles. Les sciences que nous venons de mentionner prennent chacune pour sujet, dans chaque genre, l'essence et tâchent de donner sur tout le reste des démonstrations plus ou moins sujettes à exception, plus ou moins rigoureuses. Les unes admettent l'essence perçue par les sens. Les autres posent tout d'abord l'essence comme fait fondamental. Il est clair alors qu'il n'y a lieu, avec cette façon de procéder, à aucune démonstration, ni de la substance, ni de l'essence. La physique est une science, mais elle n'est évidemment point une science pratique, ni une science créatrice. Pour les sciences créatrices, en effet, c'est dans l'agent et non dans l'objet qui subit l'action que réside le principe de mouvement. Et ce principe, c'est ou bien un art, ou bien quelque autre puissance. De même pour les sciences pratiques. Ce n'est pas non plus dans la chose qui est l'objet de l'action que réside le mouvement, mais bien plutôt dans l'être qui agit. La science du physicien traite des êtres qui ont en eux-mêmes le principe du mouvement. On voit assez, dès lors, que la science physique n'est ni une science pratique, ni une science créatrice, mais qu'elle est de toute nécessité une science théorétique, car il faut bien qu'elle rentre dans l'un de ces trois genres. Puisqu'il est nécessaire que chaque science connaisse sous quelque point de vue l'essence et s'en serve comme d'un principe, le physicien ne peut donc pas ignorer la manière de définir. Il faut qu'il sache ce qu'est véritablement la notion substantielle dans les objets dont il traite, si elle est dans le même cas que le Camus, ou bien plutôt comme le retroussé. La notion du Camus implique la matière de l'objet. Celle du retroussé est indépendante de toute matière. En effet, c'est dans un nez que se produit le Camus, et c'est pour cela que la notion du Camus implique celle du nez. Le Camus, c'est le nez retroussé. Il est donc évident que la matière doit entrer dans la définition de la chair, de l'œil et des autres parties du corps. Il y a une science de l'être considérée en tant qu'être et indépendamment de tout sujet matériel. Voyons donc s'il faut admettre l'identité de cette science et de la physique, ou bien plutôt leur différence. La physique traite des êtres qui ont en eux-mêmes le principe du mouvement. La science mathématique est une science théorétique, il est vrai, et qui traite d'objets immobiles. Mais ces objets ne sont pas séparés de toute matière. La science de l'être indépendant et immobile est donc différente de l'une et de l'autre de ces deux sciences. Supposez qu'il y ait une substance qui soit réellement ainsi, je veux dire indépendante et immobile, ce que nous nous efforcerons de prouver. Et s'il y a une nature de cette sorte parmi les êtres, ce sera la nature divine. Ce sera le premier principe le principe par excellence. Il y a, à ce compte, trois sciences théoriques. La physique, la science mathématique, la théologie. Or, les sciences théoriques l'emportent sur les autres sciences. Mais celle que nous venons de nommer la dernière l'emporte sur toutes les sciences théoriques. Elle a pour objet l'être qui l'emporte sur tous les êtres. Et c'est la valeur de l'objet propre de la connaissance qui détermine ou la supériorité d'une science ou son infériorité. C'est une question de savoir si la science de l'être en tant qu'être est, oui ou non, une science universelle. Les sciences mathématiques traitent chacune d'un genre d'être déterminé. La science universelle embrasse tous les êtres. Si donc les substances physiques étaient les premières entre toutes les essences, alors la première de toutes les sciences, ce serait la physique. Mais s'il existe une autre nature, une substance indépendante et immobile, il faut bien que la science de cette nature soit une autre science, une science antérieure à la physique, une science universelle par son antériorité même.